Midi 14h, entre nous sur RDL.
Eh bien bonjour, merci d'être là, merci d'être avec nous. C'est parti pour une nouvelle semaine d'entre nous avec nos invités, avec vos questions, avec nos informations et conseils, pourquoi pas. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Mélanie Debloc de la CARSAT. Bonjour Mélanie.
Bonjour Jean-Marc.
Très heureux de vous avoir de nouveau avec nous.
Moi également.
On a toujours beaucoup de questions en ce qui vous concerne, en ce qui vous concerne, pas vous personnellement bien sûr, mais la CARSAT pour la constitution des dossiers de retraite, des trimestres oubliés, des sommes incomprises.
C'est ça, des relevés de carrière qu'on ne comprend pas forcément parce que ce n'est pas toujours évident. Et puis avec parfois quelques années manquantes, mais qu'on a toujours la possibilité de remettre en place. Hein.
Bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En tout cas, aujourd'hui avec vous et vos questions, 03 21 38 90 51. On commencera d'ailleurs avec une question qui nous est parvenue par mail tout à l'heure. Mais je rappelle le numéro jusqu'à 13h, 03 21 38 90 51 pour parler de vos dossiers de retraite.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Et avec vos dossiers de retraite traités aujourd'hui, dans Entre nous, jusqu'à 13h, en la présence de Mélanie Debloc de la CARSAT. On commence, Mélanie, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts ?
Allons-y.
C'est parti avec une question qu'on a reçue par mail de Marie-Josée. Elle nous dit « J'ai 60 ans et je travaille depuis l'âge de 18 ans sans interruption, à l'exception de mes périodes de maternité. Lors de la consultation de mon relevé de carrière en mai dernier, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'erreurs dans celui-ci, à la fois sur le nombre de trimestres, mais également les montants déclarés, notamment sur les années 1984 à 2009. » C'est un petit peu long, mais ça mérite d'être précis.
Oui, ça va.
J'ai donc adressé un mail et corrigé toutes les informations erronées, mais je n'ai pas été encore contacté. Le dossier a été réalisé au mois de mai. Première question, les délais de réponse sont-ils normaux ?
Oui, alors il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Pour ce qui concerne les mises à jour de carrière, c'est vrai qu'on vous demande de commencer dès 55 ans à bien être attentif à votre relevé de carrière, et vous avez eu tout à fait raison de le faire, madame, et à nous transmettre les documents pour mettre à jour la carrière. Maintenant, ça prend du temps parce que les techniciens doivent vérifier année après année, voire mois après mois, si tous les reports sont corrects. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Et puis, il faut bien comprendre aussi qu'on priorise les mises à jour de carrière en fonction de la date de départ possible. Donc quand on a une petite marge, eh ben c'est vrai qu'on a tendance à prioriser un dossier pour lequel le départ à la retraite, il est dans quelques mois.
C'est bien ça.
Donc faut vraiment pas vous inquiéter, ça peut prendre plusieurs mois et c'est normal.
Bon, alors elle continue. Peut-on obtenir un rendez-vous avec un conseiller compte tenu du volume des fiches de paie que je possède ? Bon, je pense que ça posera pas de problème.
Ah, ça pose absolument pas de problème. On a réouvert de nouveaux motifs de rendez-vous. Mm-hmm. Et donc vous avez tout à fait la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne sur l'espace personnel de l'assurance-retraite.fr.
Voilà, Marie-Josée qui souhaite obtenir la régularisation de ce relevé pour qu'elle puisse prendre sa retraite après 62 ans. Elle précise qu'elle ne pourra pas écouter l'émission puisqu'elle travaille à cette heure-là. Elle travaille encore, oui, elle n'est pas encore en retraite. Et qu'elle la suivra en replay. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que, bah oui, bien sûr, cette émission sera disponible en replay à partir de demain dans le courant de la matinée. Merci Marie-Josée pour cette question. Puis si vous en avez, vous aussi, des questions à poser à notre invitée aujourd'hui, Mélanie Debloc de la CARSAT, vous n'hésitez pas, ça passe au 03 21 38 90 51. On vous attend.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Et notre invitée Mélanie Debloc de la CARSAT, on parle avec elle de vos dossiers de retraite et on accueille vos questions. 03 21 38 90 51. Mélanie, une question de Simon de Coudekerquebranche. Ma femme et moi projetons de nous expatrier au Portugal pour passer notre retraite. Il y a beaucoup de seniors qui font ça oui. Ces dernières années. Est-ce qu'on touchera notre retraite normalement en vivant là-bas au Portugal ? Et est-ce qu'il y a une procédure ou des conditions particulières ?
Alors, bien évidemment, vous pouvez toucher votre retraite et partir vivre à l'étranger. Il n'y a aucune difficulté pour ça. Il faut juste bien évidemment nous informer de votre nouveau domicile et de votre nouvelle adresse, puisque nous, on doit faire les changements d'adresse. Et puis, il faut savoir qu'un départ à l'étranger, ça peut éventuellement changer les prélèvements sociaux. Ça dépend si vous décidez d'être imposé fiscalement par votre pays de résidence ou par la France. C'est un choix qu'on fait quand on part à l'étranger. Et en fonction de cette situation, ça peut avoir un impact sur les prélèvements sociaux qui sont prélevés sur vos retraites. Donc c'est pour ça qu'il faut informer votre caisse. Après, on vous guide dans les démarches. Mais c'est tout à fait possible. Il n'y a qu'un droit qui est soumis à résidence en France. C'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, puisque c'est un minimum social qui est fait pour amener vos revenus à un montant acceptable par rapport au niveau de vie en France.
Donc le fait d'avoir son adresse de résidence principale à l'étranger ne pose aucun problème. S'il devait changer de nationalité, ça poserait un problème ?
Non plus.
Bon, bah écoutez, très bien. Et puis, il y a quelque chose à faire ? Non, il n'y a rien à faire, à part déclarer sa nouvelle adresse.
Voilà.
Et puis, son nouveau RIB, si on change de banque.
Forcément, s'il y a changement de compte bancaire, il faut aussi, sinon le montant de la retraite n'arrive pas au bon endroit.
C'est Merci Simon pour votre question. On continue à parler de cette retraite, de tout ce qui vous tracasse, parce que c'est vrai que quand on constitue son dossier, on a tous, de toute façon, une situation particulière. Il n'y a pas deux situations qui se ressemblent, j'imagine.
Absolument. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, chaque situation est particulière. Alors, certaines se rapprochent, mais vraiment, chaque situation est particulière.
Et certaines peuvent être particulièrement compliquées. Donc, on est là pour vous aider au 03 21 38 90 51 jusqu'à 13h avec Mélanie.
RDL, entre nous, avec Jean-Marc Rachia.
Et avec Mélanie Debloc de la CARSAT pour parler de vos dossiers de retraite. Mélanie, on continue ?
On continue.
Avec une question de Sabine de Dunkerque. J'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique et j'ai longtemps touché des primes. Est-ce qu'elles seront prises en compte dans le calcul de ma retraite, nous dit-elle ?
Alors, la fonction publique, c'est un autre régime que celui géré par la CARSAT, mais bon, on peut tenter d'y répondre quand même. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, les primes de la fonction publique n'étaient pas soumises à cotisation vieillesse et donc ne rentraient pas dans le calcul de la retraite. À ma connaissance, ça a changé il y a quelques années, mais il vaut mieux se renseigner. Alors, auprès des services des retraites de l'État, si c'est de la fonction publique classique, on va dire, et si c'est de la fonction publique des collectivités locales ou la fonction publique hospitalière, c'est auprès de la CNRACL.
D'accord.
Pour ce qui concerne les salariés, puisqu'il y a des primes aussi chez les salariés, là c'est l'inverse. Souvent la majorité des primes sont soumises à cotisation vieillesse. Ce qu'il faut retenir en fait, le plus simple, c'est de retenir que nous on prend en compte les salaires qui sont soumis à cotisation vieillesse. Et ça, vous le voyez sur votre fiche de paye. Dans le détail de votre fiche de paye, il y a différentes lignes et il y a une ligne qui correspond au prélèvement des cotisations vieillesse. Et en fait, nous, on va prendre en compte le montant qui est indiqué sur cette ligne-là, le montant brut soumis à cotisation sur cette ligne-là.
Vous ne tenez pas compte du montant de la prime, de sa nature.
Non. On ne regarde pas dans le détail si c'est une prime, si c'est le salaire classique, si c'est des heures supplémentaires, autre chose. On regarde uniquement le montant soumis à cotisation vieillesse sur la fiche de paye.
D'accord, très bien. Et puis, pour revenir à la question de Sabine, dans la plupart des grandes collectivités, il y a un service ressources humaines qui peut aussi sans doute lui répondre.
C'est ça. Dans les grandes collectivités, ce sont les services des ressources humaines qui gèrent les premières démarches de dossier retraite, donc il ne faut pas hésiter à aller les contacter. Et puis sinon, comme je vous disais, il y a la CNRACL qui est basée sur Bordeaux, mais vous pouvez les joindre par courrier ou par mail. Et les services de retraite de l'État, j'ai plus leur adresse de mémoire, c'est sur Paris. Mais il ne faut pas hésiter aussi à les contacter.
D'accord.
Midi 14h, entre nous sur RDL.
Et vos questions 03 21 80, 21 38 90 51 pour notre invitée Mélanie Debloc de la CARSAT. Paulette de Wizerne, Mélanie nous écrit: je crains d'avoir une toute petite retraite. Tout le monde craint d'avoir une toute petite retraite, hélas. Ouais. Est-ce que j'aurai le droit, mais elle anticipe quand même, est-ce que j'aurai le droit de toucher l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la fameuse ASPA ? Elle se demande quel est le plafond pour pouvoir la toucher.
Alors effectivement, l'ASPA, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un minimum social qui permet de ramener les ressources à un niveau acceptable, on va dire, pour vivre en France. Le plafond pour une personne seule actuellement, donc cette année, le plafond change tous les ans, mais cette année, il est à 916,78 € pour une personne seule.
D'accord.
Brut, c'est-à-dire qu'il faut que vos ressources soient inférieures à ce plafond et le montant de l'ASPA qui vous est versé ramène vos ressources à ce montant.
D'accord.
Donc si vous touchez 800 € de retraite, on va vous verser 116,78 € d'ASPA pour ramener les ressources au montant. Sachant que dans les ressources, on tient compte bien évidemment de toutes les ressources, quand vous êtes propriétaire d'une maison, si ça n'est pas votre résidence principale, on retient quand même un certain montant.
Sûr, oui.
Donc vous devez nous déclarer l'intégralité de vos ressources.
D'accord.
Pour un couple, le plafond c'est 1423,31 €.
D'accord. pas beaucoup quand même.
Mais pas beaucoup, c'est un minimum social.
C'est un minimum social. Il y a une procédure particulière pour bénéficier de la SPA ?
Oui, alors il faut remplir un formulaire spécifique, une demande d'ASPA, d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Dans ce questionnaire, vous avez les questions habituelles pour des dossiers de demande de droit et vous avez également un questionnaire ressources qu'il faut bien compléter en indiquant si possible les montants bruts. Mm-hmm. Si vous ne les connaissez pas, vous indiquez montant net à côté, ça marche aussi, hein, faut
d'accord,
pas vous inquiéter.
Très bien. Vous avez raison. Oui, pardon.
Non, je dis après, on étudie la situation. Je vous rappelle aussi que pour percevoir l'ASPA, il faut habiter en France, absolument.
Ah oui, donc par rapport à la question du portugal tout à l'heure, oui, c'est on l'avait évoqué. Il faut résider en France. Très bien. Vous faites bien de dire l'ASPA parce que si on dit la SPA, on va confondre avec la Société Protectrice des Animaux. Donc on va garder cet acronyme-là, ASPA. Merci Paulette pour cette question. On continue et on en parle de ces dossiers retraite jusqu'à 13h aujourd'hui sur RDL.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Et aujourd'hui, on accueille Mélanie Debloch de la CARSAT pour répondre à toute question sur les constitutions de dossiers de retraite ou les différents calculs. On a une question de Bernard qui nous appelle de Longuenesse. C'est bien ça, Bernard, bonjour.
Oui, tout à fait, bonjour Jean-Marc.
Bernard, Mélanie est avec nous, elle vous écoute, vous pouvez lui poser votre question.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Jean-Marc.
J'ai une petite question à vous poser par rapport au minimum contributif.
Oui.
Quand la retraite n'atteint pas une certaine somme, on a le droit à une majoration du minimum contributif.
Oui, effectivement, c'est un dispositif qui existe.
Et cette majoration est calculée au prorata des trimestres retenus.
Oui.
D'accord. Parce que ma femme a pris sa retraite en octobre 2020. Et bon, pour moi, le minimum contributif qui lui est versé ne correspond pas à ce qu'il aurait dû être.
D'accord. Bon.
Est-ce qu'on peut rappeler, auparavant, merci Bernard pour votre question, est-ce qu'on peut rappeler brièvement, si c'est possible, ce qu'est le minimum contributif ?
Oui, alors le minimum contributif, c'est un dispositif qui a été mis en place pour permettre aux personnes qui avaient cotisé toute leur carrière, quasiment, puisque c'est vraiment, c'est possible à partir d'un certain nombre de trimestres, pour les personnes qui avaient cotisé toute leur carrière, à atteindre un montant de retraite minimum. Parce que ceux qui avaient des bas salaires, on se rendait compte que parfois, ils avaient un montant de retraite très très faible. Donc ce minimum contributif, il est à destination des personnes qui ont une retraite à taux plein et qui ont cotisé un certain nombre de trimestres. Et donc on ramène le montant de la retraite au montant de ce minimum. C'est un complément de montant. Donc ce calcul se fait automatiquement effectivement en fonction du nombre de trimestres et il faut savoir aussi que ce minimum contributif ne peut être versé que si la personne a ouvert tous ses droits à retraite, d'accord ? Quels que soient les régimes auprès desquels elle a cotisé, ce qui est le cas de votre épouse apparemment, hein, Bernard ?
Oui, tout à fait.
Donc au niveau du calcul, là il faudrait regarder le dossier dans le détail, mais il faut savoir que le montant il est proratisé effectivement en fonction du nombre de trimestres cotisés sur le compte de votre épouse. Et donc forcément, peut-être que l'écart se fait à ce niveau-là. À mon avis, il y a peut-être une différence entre le nombre de trimestres cotisés que vous pensez être existant sur le compte de votre épouse et le nombre de trimestres cotisés pris en compte par notre organisme.
Moi, je le fais en fonction du nombre de trimestres retenus par l'assurance retraite.
Oui, mais là, on est bien. La proratisation, elle se fait par rapport au nombre de trimestres cotisés, c'est-à-dire validés exclusivement ou quasi exclusivement par des revenus d'activité professionnelle.
Oui, parce que bon, si je fais le calcul comme l'assurance retraite, je retombe sur les mêmes chiffres. Mais pour moi, c'est la valeur du minimum contributif qui n'est pas bonne.
D'accord. Ah, par rapport à la dernière revalorisation du minimum, peut-être, monsieur.
Je ne sais pas. Est-ce que pour la retraite, ça peut changer en fonction de la revalorisation du minimum contributif ?
Alors, ces montants sont revalorisés, effectivement, tous les ans en fonction des revalorisations du SMIC. Hein, c'est lié aux revalorisations du SMIC. Ce que je vous propose, monsieur, c'est j'ai votre numéro de téléphone, je vous recontacterai hors antenne et on fera un point plus précisément sur le dossier de votre épouse.
Ça, c'est bien. C'est gentil.
C'est gentil. Merci beaucoup, Eugène.
Merci pour votre question, Bernard. Bonne retraite à vous, alors, et à votre épouse. À bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir Jean-Marc.
Voilà, c'est terminé Mélanie pour aujourd'hui, c'est passé très très vite encore une fois. Merci donc d'embarquer le numéro de téléphone de Bernard et de résoudre ce cas comme vous le faites à chaque fois. De toute
c'est
façon,
normal, oui,
vous,
bien sûr.
Vous aidez les gens qui viennent nous téléphoner. À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Je pense que c'est prévu pour le mois prochain.
Oui.
C'est novembre, voilà.
Oui, souvent.
Le jour, je ne sais pas, ce sera la surprise. Merci, au revoir.
Une bonne journée, au revoir.